Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte.
Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. ArmorAll, less work, more clean. Terms apply.
Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Bénédicte Épinier, la déléguée générale du comité Colbert, qui regroupe 90 maisons de luxe français et 17 institutions. Je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte.
Bonjour, moi aussi, je suis ravie d'être là.
Bon, va falloir que tu nous racontes ce qu'est le comité Colbert.
Alors, le comité Colbert est une association loi 1901 qui a été créée en 1954 à l'initiative de Jean-Jacques Guerlain, qui était évidemment son nom dit tout de lui, grand monsieur du parfum, et qui, au sortir de la guerre, a eu l'idée de créer cette association pour reconquérir l'art de vivre français, redonner du brillant à l'art de vivre français après des années, évidemment, de privation que furent les années de guerre. 14 maisons fondatrices, à commencer par Guerlain, évidemment, Baccarat, Christian Dior, Hermès, puis Forca, des noms qui font encore rêver et qui sont toujours, d'ailleurs, au comité Colbert. Et une maison, une voix, donc un petit peu différent d'une fédération où plus vous êtes gros, plus votre voix est grande. Là, une maison, une voix, donc tout le monde est sur un pied d'égalité et on est là vraiment pour faire rayonner le luxe français en France et évidemment à l'international. Donc aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de sens. À l'époque, le luxe était assez peu, les maisons de luxe étaient assez peu implantées à l'étranger. Évidemment, aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Donc aujourd'hui, trois rôles essentiels, celui de faire rayonner ces maisons à l'international, celui de leur assurer un environnement réglementaire le plus stable possible, ce qui veut dire, dans des termes un peu plus barbares, qu'on fait du lobbying. Voilà, auprès du gouvernement français, auprès des autorités à Bruxelles. Et puis, un troisième travail de l'ombre, mais qui est tout aussi important, qui est celui de la défense des savoir-faire, de savoir orienter nos jeunes vers ces métiers. Et on sait aujourd'hui combien c'est important, puisque nos maisons, chaque année, ont les plus grandes difficultés à recruter des jeunes dans les métiers de production, donc tous les artisans. Un salarié sur deux dans le luxe est un salarié à la production. Et donc, malgré tout le brillant qu'ont ces maisons, on a toujours du mal. Chaque année, il y a à peu près 10 000 postes qui ne trouvent pas preneur en production.
Et pourquoi, selon toi?
C'est une mauvaise réputation qui traîne, dont on a du mal à se débarrasser. En fait, on essaye d'expliquer ce que c'est tout autre. Être artisan dans une maison de luxe, que ce soit être à la conception d'un sac ou être au polissage d'un bijou, c'est un métier extraordinaire. Enfin, vous avez entre les mains des objets qui vont ensuite avoir une durée de vie illimitée, vont passer de la mère à la petite fille et ensuite à l'arrière-petite fille. Quoi de plus beau aujourd'hui?
Et c'est justement les valeurs dont on va parler, parce que ce sont les questions qui reviennent le plus souvent quand on parle de luxe. On se dit luxe, inclusion, etc. C'est peut-être compliqué. Et là, toi, tu me parles de valorisation de savoir-faire, de valorisation de métier. Ça m'intéresse, cet angle-là, en fait.
Alors, en fait, je crois qu'on se trompe. Quand on pense luxe, souvent, on pense prix des produits de luxe.
C'est ça.
Du coup, on pense des consommateurs riches et... Très souvent, d'ailleurs, beaucoup de littérature sur le sujet sortent. Qui sont les consommateurs du luxe? De quoi ont-ils envie? Et les jeunes, et les moins jeunes, et les plus vieux? Et moi, j'ai juste envie qu'on change la focale et qu'on regarde, mais qui fabrique les produits du luxe? Et là, tout d'un coup, ça prend une couleur totalement différente. On se rend compte que nos maisons, pour l'essentiel, fabriquent en France. Et donc là, on est complètement dans les thématiques de la RSE. Je veux dire, nos maisons ont une responsabilité sociétale, sociale. Elles fabriquent en France, elles embauchent en France. Et là, du coup, effectivement, nous, on a en France, directement et indirectement, on fait vivre plus d'un million de personnes.
Et justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les marques essayent de mieux rémunérer, on voit en grande conso, la marque du consommateur, pour mieux rémunérer les producteurs laitiers, les agriculteurs, etc. Les marques de luxe rémunèrent bien, très bien. Elles ne prennent pas des marges excessives, elles prennent des marges parce que ça reste le luxe, mais ce que tu essaies de me dire, c'est qu'elles rémunèrent que les artisans, ces experts vivent très bien de leur métier.
Voilà, si je prends tous les domaines du luxe, que ce soit fabriquer un verre Baccarat, il faut à peu près 10 ans pour qu'un artisan chez Baccarat sache souffler correctement. Donc évidemment, un verre Baccarat coûte cher, mais Baccarat est en France, comme chacun le sait, dans le Grand Est. Il faut de l'expérience pour fabriquer un verre Baccarat, et donc tout ça coûte de l'argent, d'où le prix.
Et c'est la formation du souffleur.
Exactement. Un restaurant, aujourd'hui, il se fournit dans son environnement proche, donc il fait du circuit court. Et ben, le circuit court a un prix, effectivement. Le circuit court aussi, parfois, l'agriculteur ne va pas mettre d'herbicide sur ses terres, donc on récolte moins, c'est plus compliqué, donc les produits sont plus chers. Aujourd'hui, personne n'est choqué par les produits bio qui coûtent plus cher. C'est exactement la même logique dans le luxe, si vous voulez.
Et puis, ça a toujours été, finalement, le côté éco-responsable, puisque j'ai presque toujours vu les maisons aller sur le marché du coin pour aller prendre les meilleurs fruits, les meilleurs légumes, au marché Rungis, etc.
En fait, moi, j'ai presque envie de dire que tout ça est totalement lié. Luxe, durabilité, inclusion, c'est des notions qui... Peut-être que ça vous semble bizarre, mais tout ça fonctionne de manière complètement en bonne cohérence. Et quand on repense à la définition même du développement durable, la première définition du développement durable, elle a été donnée en 87 par une Norvégienne qui s'appelait Madame Brundtland, qui a donné son nom à un rapport qui est devenu le rapport Brundtland. Donc je le prononce peut-être pas bien, voilà. Mais qui disait quoi? Le développement durable, qu'est-ce que c'est? C'est un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Mais nous, on fait jamais que ça depuis des siècles. Le luxe, c'est ça. Cette sémantique correspond complètement aux valeurs que l'on véhicule.
Et est-ce que le luxe a évolué alors depuis toutes ces dernières années ou finalement pas tant que ça?
Alors, je dirais que sur les nouvelles thématiques de la RSE, il y a clairement eu depuis 2 ans un grand chamboule-tout, mais comme partout.
Mais plutôt sur du côté éco-responsable et éco-conçu, avec de la précommande.
Exactement.
Est-ce que d'ailleurs, le luxe et précommande, ça marche?
Les luxes précommandes, ça commence à marcher un peu.
C'est pas encore l'ADN.
Non, c'est pas encore l'ADN.
Mais ça, pour le coup, ça pourrait presque être faisable, puisqu'un produit de luxe est tellement cher que parfois on peut attendre pour
alors,
cela.
Alors, tout ce qui est sur mesure, évidemment.
Oui, c'était déjà de la précommande.
C'est de la précommande déguisée, on va dire.
Exactement.
Voilà. Ouais. Ce que vous disiez très justement tout à l'heure, effectivement, l'éco-responsabilité, là, est vraiment quelque chose qui est en train de monter en puissance très fortement dans nos maisons.
Et le cuir végétal,
voilà.
Bien sûr.
Donc, on a vu apparaître des cuirs de champignons, on a vu apparaître tout ce qui est recherche.
Cuir de champignons, oui. C'est chez qui ça?
Chez Hermès. Ils ont sorti le premier sac en cuir de champignons.
Je veux ce sac.
Donc effectivement, chez toutes nos maisons dans la beauté, on voit apparaître cette thématique de la rechargeabilité. Je veux dire, aujourd'hui, on peut recharger un parfum, on peut rapporter son pot de crème et on va vous le recharger, on peut recharger un rouge à lèvres. Aujourd'hui, on voit apparaître des choses
incroyable.
Tout à fait étonnantes et tout le monde s'est vraiment mis en mode innovation.
Et d'ailleurs, justement, ces marques de luxe investissent en R&D.
Énormément.
Voilà, donc c'est grâce à elles que le secteur bouge et que du coup aussi les startups naissantes peuvent utiliser.
On avait en tout début d'année fait une campagne de publicité et on avait un slogan que j'aimais beaucoup qui disait « Le luxe est le plus ancien secteur d'avenir ». Alors, on a souvent cette image du luxe, l'artisan plié sur
c'est
son
vrai,
établi, qui est en
un
train de polir.
Voilà.
Alors, on adore cette image romantique, hein, on est d'accord, ça nous plaît beaucoup. Mais à côté de ça, on est un secteur qui recrute des data scientists, qui recrute des climatologues, qui recrute... Enfin, je veux dire, on est dans la modernité. Songez que chez Chanel, par exemple, ils ont 250 biologistes.
Qui penserait ça? Mais bien évidemment, ils travaillent sur les crèmes de beauté de l'avenir, donc il faut bien des biologistes pour réfléchir à ça.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des produits phares qui finalement étaient très polluants, qui ont été retirés de certains...
Alors, il y a des pratiques qui sont en train d'évoluer. Je pense par exemple aux vins et spiritueux, mais tu as reçu Jean-Marc Gallo qui a dû t'en parler.
Il parlait des moutons.
Voilà, de chez Veuve Clicquot. Clairement, la totalité du secteur des vins et spiritueux est engagée dans une stratégie zéro herbicide. Là, c'est un changement. On est en train de changer totalement les mentalités, de faire effectivement charger les moutons de désherber. Donc là, on est vraiment en train de switcher.
Oui.
Donc ça, c'est un vrai changement de mentalité. Mais de la même manière, se dire dans le vin, dans les vins et spiritueux, autrefois, on avait des rebuts, on n'en faisait rien. Aujourd'hui, on réfléchit.
Tout se transforme.
Les rebuts, on les apporte à une distillerie qui les transforme et qui les apporte aux produits, aux géants de la cosmétique.
Mais d'ailleurs, une personne qui tenait à une de ces pièces de luxe qui valait une fortune, maintenant, au lieu de le laisser dans un coin, on peut presque le ramener et le transformer en autre chose.
Effectivement, ça, c'est une très jolie citation d'un ancien président d'Hermès, Jean-Louis Dumas, encore Hermès, qui disait « Qu'est-ce qui distingue un produit luxe d'un produit ordinaire ?» Eh bien, c'est un produit qui vieillit, qui se répare, qui se transmet. Et aujourd'hui, il pouvait pas le dire à son époque, mais aujourd'hui, on pourrait presque dire, et qui va se revendre. Et par exemple, une maison comme Longchamp, chez nous, qui est au comité Colbert, répare chaque année 40 000 sacs. C'est incroyable. Donc, vous pouvez rapporter.
Et ça a toujours été. Mais... Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus de structures mettent ça en place, parce que la réparabilité, c'est un autre axe de l'éco-responsabilité. Et en fait, c'est déjà fait.
Eh bien, nous, on le fait depuis très longtemps. C'est consubstantiel au luxe. Chez Berluti, par exemple, vous pouvez rapporter votre paire de souliers pour la faire cirer de telle sorte qu'elle va durer plus longtemps. Vous allez vous dire, a priori, ça va contre le business. Oui et non, en fait. Ben non, parce que vous créez une espèce de filiation avec la maison qui va vous entretenir votre paire de chaussures.
Mais je pense aussi au consommateur qui, quand il investit dans un produit de luxe, a plus envie, on va dire, de le réparer puisqu'il a investi. Est-ce que tu penses qu'il y a une notion d'investissement maintenant pour le consommateur, simplement même dans tous ses achats, je ne parle pas uniquement pour le luxe, de peut-être réfléchir de moins acheter, mais d'acheter mieux?
Je pense.
Et de réparer et de faire durer chaque article.
Oui. Et on le voit d'ailleurs. Alors, pour le coup, je cite des sondages de consommateurs, mais on voit très bien que la jeune génération, non seulement dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie personnelle aussi, est avide de faire des investissements dans la durée et non plus d'aller dans la fast fashion, par exemple, dont elle sait très bien que 6 mois après, elle en aura plus envie et où elle va le jeter.
Même à l'instant même, souvent on l'achète et on met dans le placard, on ne sait pas ce qu'il est devenu.
Donc, c'est vrai que nous, on est sur de l'investissement réfléchi, mais dont on se dit que peut-être il va avoir une vie après nous.
Et est-ce qu'au sein du comité Colbert, les marques s'inspirent entre elles?
Évidemment.
C'est génial, ça.
Nous venons d'ailleurs de publier ce qu'on a appelé très justement d'ailleurs un carnet d'inspiration avec cette vocation de dire sur ces thématiques de la RSE, on a des très grandes maisons au comité Colbert qui sont déjà très très loin dans la réflexion, qui font beaucoup beaucoup de choses, et puis j'ai des petites maisons familiales qui sont moins matures sur le sujet et qui ont besoin d'être accompagnées. Donc l'idée de ce carnet d'inspiration, c'était de se dire on va mettre en lumière les actions les plus remarquables des grands. Évidemment, il y a des petits aussi qui font des tas de choses sympathiques, mais de telle sorte que tout le monde soit embarqué, que tout le monde soit inspiré et qu'au final, c'est aussi, d'ailleurs depuis l'origine, depuis la création par Jean-Jacques Guerlain, cette idée de ce collectif qui est dans le partage.
Voilà. Et comment on rentre au comité Colbert? Si demain une marque de luxe se crée, est-ce qu'il faut qu'elle ait une certaine ancienneté?
Alors,
qu'elle ait fait des preuves?
Non, parce que j'ai des maisons très jeunes. J'ai par exemple la maison Francis Kurdjian qui a moins de 20 ans d'existence. Et à côté de ça, la plus ancienne maison du comité Colbert, c'est la maison Saint-Louis qui a été créée en 1586. Donc vous voyez qu'entre maison Francis Kurdjian et Saint-Louis, évidemment, j'ai plusieurs siècles de différence. Mais c'est ça aussi l'intérêt, c'est que bien la maison Francis Kurdjian, elle a les réflexes de la modernité, elles ont mutuellement énormément à s'apporter. Donc ça, depuis les débuts du comité Colbert, c'est très fort. C'est cette idée de partage du collectif. Je vous le disais tout à l'heure, un homme, une voix. Donc tout le monde échange. Évidemment, ça s'arrête au moment où on commence à parler business et stratégie. Mais tout le reste est sur la table.
Elle reste concurrente
quand
même. Voilà,
elle reste évidemment concurrente.
Mais donc, selon toi, luxe et nouvelle façon de consommer, c'est pas du tout antinomique et ça va de pair. On peut, demain, quelqu'un qui veut monter sa marque de luxe, n'est pas juste un utopiste, quoi.
Ah non, moi je crois pas.
Au contraire.
Je ne sais plus qui dit ça très récemment. Tout se passe comme si l'époque nous rejoignait. Voilà, tous ces discours qu'on entend aujourd'hui. Et on s'est dit, mais nous, on les tient depuis, nos maisons les tiennent depuis une éternité. Donc, finalement, c'est sympathique de voir que ce discours sur la durabilité, bah, aujourd'hui, il est devenu à la mode sans qu'on ait presque rien à faire.
En fait, c'est peut-être le mass market qui va finir par disparaître. Et la surconsommation, donc la quantité, peut-être qu'on va aller plus vers de la qualité. Bon, après, pas forcément du luxe, parce qu'il faudrait que ça reste accessible
au plus grand nombre.
Et d'ailleurs, je sais très bien que nos auditeurs vont dire, oui, mais luxe, c'est cher, donc tout le monde ne peut pas les avoir. Oui, ça, c'est vrai, mais sinon, c'est plus du luxe. Donc, il faut quand même rester maison de luxe. Mais peut-être qu'on va plus quand même aller vers des marques un peu plus chères, qui vont mieux payer leurs artisans, on n'a pas besoin d'autant d'habits, on n'a pas besoin d'autant de choses. Peut-être qu'on va devenir un peu plus minimaliste. Et est-ce que les marques de luxe peuvent aussi évangéliser ces bonnes pratiques de consommation, de consommer mieux, de réparer, comme tu me disais, de faire durer, de transformer? Est-ce que c'est aussi un des rôles des maisons de
luxe de faire ça? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit un des rôles, mais en tout cas, c'est clairement un message qu'elles portent. Oui, bien sûr, elles le portent. Alors, elles sont entendues ou elles ne sont pas entendues, mais c'est clairement un message qu'elles portent depuis très longtemps maintenant. Et la réparabilité est devenue dans les gènes de toutes les maisons aujourd'hui.
On peut tout faire réparer.
Oui,
hein.
Oui. C'est Margaret Henriquez, la présidente de Champagne Crook, qui dit très justement « Les maisons de luxe sont elles qui allument le chemin pour les autres ». Et je trouve ça très joli. Et effectivement, on a quelque part, tu disais, cette idée d'évangéliser. Oui, peut-être qu'on devrait travailler sur cette question-là.
Il y a une espèce quand même d'aura
d'allumer,
au niveau du luxe.
Voilà.
Il y a même les touristes hein, qui viennent devant les magasins Chanel. Et on voit les... Enfin, on voyait, parce qu'avec le Covid... Tiens d'ailleurs, Covid... L'impact sur les maisons, ça a été un petit peu compliqué quand même.
Alors,
ça a été
compliqué comme ça l'a été pour tout le monde
plus,
qui a dû
moins.
Fermer ses magasins. À dire vrai, le luxe s'en sort plutôt bien puisque la plupart de nos maisons sont implantées en Chine. Et la Chine a redémarré très, très vite et très, très fort. Les États-Unis ont redémarré peut-être moins vite, mais très fort aussi. Donc finalement, ces deux gros marchés ont remplacé les marchés défaillants qui sont les marchés européens.
Donc, tu me dis qu'il y a des magasins là-bas. Donc, si c'est produit en France et fait en France, il y a quand même une certaine empreinte carbone entre...
Il y a une empreinte carbone, c'est certain. Tout à fait.
Et ça, comment...
Alors,
est-ce qu'à terme, c'est quand même dans les réflexions d'essayer de la minimiser?
Oui, ou à tout le moins de faire en sorte de travailler à l'améliorer. Je pense par exemple à une maison comme Annecy, qui est donc du cognac. Son gros marché, c'est la Chine. Ils se sont engagés à transporter par bateau à voile. Voilà une solution. Ce qui est vrai, c'est
donc
que...
Ça va être sur le transport, surtout qu'on
oui,
va...
Oui, sur le transport.
Sur le packaging aussi, hein, peut-être quand là, les gens, il y aura peut-être
tous
moins
ces sujets sont
d'accord.
En train d'être adressés. L'épaisseur des flacons de parfum pour qu'on consomme moins de verre. La rechargeabilité, on en parlait tout à l'heure. Moins de carton, moins de suremballage. Tout ça, ce sont des sujets qui sont en train d'être adressés. Mais c'est vrai que le sujet auquel on est très accroché, c'est celui de la fabrication française. Donc là, évidemment, il y a un moment où il faut transporter ces produits jusqu'à leur point de consommation.
Est-ce que tu aurais des sujets qu'on n'aurait pas abordés ensemble que tu aurais envie de m'évoquer?
Peut-être partager avec les personnes qui nous écoutent notre raison d'être, puisque nous avons une raison d'être
commune
à toutes nos maisons, et qui, je crois, résume un peu tout ce qu'on vient de se dire, qui est promouvoir passionnément, transmettre patiemment, développer durablement les savoir-faire et la création française pour insuffler du rêve. Et je pense que, évidemment, on a passé un petit temps à choisir tous ces mots comme une petite raison d'être sur mesure. Tout est dit de la patience qu'on y met, de la passion qu'on y met, le rêve, le luxe, c'est aussi le rêve.
D'ailleurs, il faut peut-être aussi que ça le reste, que ce soit... Il y a des personnes qui jamais ne pourront s'offrir un article de luxe et ça, c'est quand même dommage.
Mais en fait, quand on y réfléchit, tout le monde peut s'offrir un article.
Ah oui,
parce qu'un rouge à lèvres...
Oui.
Aujourd'hui, un très joli rouge à lèvres d'une grande maison de luxe, ça coûte 40 euros. C'est toujours beaucoup trop d'argent, mais c'est quand même un achat que je pense beaucoup d'entre nous peuvent s'offrir.
Et qu'on ne mettrait pas dans le coin d'une poche et qu'on garderait précieusement.
Voilà.
C'est vrai que tous...
C'est une petite part de rêve, une petite part de luxe.
C'est joli, ça.
Ouais.
Bah, merci.
Merci.
Merci. Merci d'être venue dans l'empreinte et noire. Du coup, je vais peut-être aller m'acheter un sac en champignons.
Ah.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.